France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Cette année-là, Dalida chantait Gigi Lamoroso, Dave vocalisait Vanina et Claude François faisait pleurer le téléphone. En avril mourait Georges Pompidou et en mai, Giscard prenait la barre. Cette année-là, dans les chemins de la connaissance, Viviane Forrester rencontrait Marguerite Duras. Elles étaient amies ou le sont devenues cette année-là. Cette année 74, c'est celle d'India Song que, faute de financement, Marguerite Duras aura d'abord réalisée pour les ateliers de création radiophonique de France Culture avant de tourner le film. Dans cette version radio, c'était Viviane Forrester qui était la voix d'Anne-Marie Streiter. Avec la musique de Carlos D'Alessio, on retrouve aussi, parmi d'autres, la voix de Forrester dans le film de Duras. Cette année-là, Viviane Forrester produisait une série de 11 émissions consacrées aux écrivains et à l'écriture. La série avait pour titre « Le discours intérieur ». Mais ce 9e volet, avec l'auteur du vice-consul, aurait pu s'intituler « Le lieu » ou bien « Le territoire de l'écriture ».
Marguerite Duras, le discours intérieur, c'est peut-être la solitude de l'écrivain, l'endroit où il s'enfonce pour écrire.
À moins que ce soit, qu'il soit toujours là, que de temps en temps, ça apparaisse dans les écrits.
C'est-à-dire que la page émerge.
C'est ça, c'est l'accident, si vous voulez.
C'est
la page écrite, c'est possible. Et je vois la page comme une... plus près d'une page de musique, vous voyez ?
Oui. C'est-à-dire une animation qui n'est pas tout à fait celle de la ligne écrite.
C'est-à-dire, dans la page musicale, vous avez les mouvements de la musique.
C'est ça.
Si vous voyez, par exemple, une page exemplaire comme les pages exemplaires de la Chaconne de Bach, c'est hallucinant de régularité. On voit le dessin de la musique. C'est, quand on peut lire la musique, j'arrive à le faire. C'est tout à fait étonnant, oui. Ces blancs, là, dans India Song, que j'aime bien maintenant. Ces blancs à droite, et puis ces blancs qui se déplacent à gauche.
Oui.
Là où il faut regarder, pas regarder. Cette lecture avec la tête qui tourne.
La partition.
Oui, oui, oui.
Le travail de l'écrivain, c'est de faire émerger le discours intérieur.
De le capter, oui.
Le capter. Au moment où il se dérobe.
Ou on ne peut plus faire autrement, peut-être, vous voyez. Mais c'est toujours un après quelque chose, quand on écrit. Et on arrive à un moment donné, mais qui n'est pas le commencement, si vous voulez.
C'est peut-être pour ça que dans vos livres, il y a justement une durée de votre œuvre, ce qui est assez rare.
Mais il y a vraiment un avant qui a été escamoté, ça vous êtes d'accord?
Oui.
J'arrive à un moment de l'histoire des amants de Calcutta. Pourquoi, tout d'un coup, ce jour-là? Ça ne veut pas du tout dire que le reste n'a pas vécu, mais il n'a pas été écrit. L'avant, ce jour-là, vous voyez?
Oui.
Je pense que c'est pour ça que mes livres sont difficiles. Parce que, pour moi, c'est un petit peu comme si ça allait de soi. Cet instant-là, où je me mets à traduire...
C'est-à-dire que vos livres ont une mémoire.
C'est ça, on peut le dire, oui.
Et d'un livre à l'autre, il semble maintenant qu'il y ait aussi la mémoire des autres livres.
Vous voyez, par exemple, je, dans La femme du Gange, j'ai parlé d'Anne-Marie Streiter comme étant morte. Tout à coup, j'ai dit, elle est morte.
Oui.
Après sa mort, il est parti des Indes, il a eu des enfants, il s'est marié, il a eu des enfants. C'est à partir de cet événement que j'ai écrit India Song.
De l'événement qui s'est produit dans La femme du Gange.
C'est ça, le fait que j'ai tué...
Vous avez appris que...
J'ai appris, c'est ça, c'est pas que je l'ai tué, mais... Je dis je l'ai tué parce que chaque fois j'essaye de m'en sortir et que je n'y arrive jamais. c'est sans fin cette histoire-là. L'écriture ne se cesse jamais, quoi. C'est une sorte d'enfer, oui, on peut dire.
India Song donc part de la mort d'Anne-Marie Streeter, c'est-à-dire que tout ne peut plus être que mémoire. Et ce sont des voix qui se rappellent.
C'est exactement une phrase, la femme du Gange. C'est sa tombe de cimetière anglais. Quatre mots. Est-ce et que... de ces quatre mots, tout est parti. Le cimetière a grandi et autour de, du cimetière blanc, cimetière anglais, ça s'est bâti. C'est comme ça que ça fonctionne, je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça, oui. Je peux à peu près l'affirmer.
La phrase devient presque un territoire. Un terrain,
oui,
qui s'agrandit, qui devient un territoire. Est-ce que le lieu où vous écrivez est pour vous un territoire, votre territoire?
J'entre dans le lieu. Là, je note tout.
Et alors,
tout ce qui se passe, très, très précisément. C'est ça, écrire pour moi.
Inscrire.
Oui, noter.
Noter.
Tout surveiller bien. Les voix. Pas seulement ça, mais les endroits où ça parle, les endroits où on entend. Vous voyez, la circulation,
oui,
des gens, les mouvements.
C'est-à-dire à la fois voir et entendre. Et inscrire, enfin noter.
Noter. Je ne sais pas si on peut parler de discours intérieur à mon propos.
Mais il y a un vécu intérieur de vos livres entre eux.
C'est plutôt ça, je crois, oui.
Vos livres vivent ce vécu intérieur qui est vôtre, mais que...
On est là dans, au point, au lieu de la difficulté même, quant à le dire, si vous voulez. Mm-hmm. Quand je faisais d'autres livres avant cela, il y a une dizaine d'années, on pouvait peut-être parler d'un discours intérieur.
Oui.
Maintenant, je ne crois pas. C'est des accidents qui se produisent dans un silence à peu près total, vous voyez. Mais autour de ça, mes facultés critiques ou mon jugement ou mon esprit d'analyse ne fonctionnent pas.
Oui, mais alors là, on pourrait dire justement que c'est là l'intériorité.
Vous voulez dire que c'est avant le discours?
Oui, c'est quand même l'intériorité, c'est quand même le silence. Ce silence dont vous parlez, peut-être justement qu'il n'y a plus besoin de discours intérieur, mais il y a un vécu de l'intériorité qui atteint au silence, et c'est là que ça se passe, en fait.
C'est là-dedans, oui.
C'est là-dedans.
Pourquoi ça s'est mis à être comme ça? L'état dans lequel je tombe, quand j'écris, je n'aurais pas pu du tout l'imaginer avant. Quand je faisais des livres de labeur, comme Un barrage contre le Pacifique, même Le Square, même Le Marin, de Gibraltar, vous voyez. C'est arrivé d'un coup avec Moderato Cantabile. Je vous l'avais dit, je crois, une fois, c'est Crise, oui.
Oui.
Qui correspond à l'écriture.
Oui.
De plus en plus courte, de plus en plus insupportable. Et puis ça vient, enfin, le dernier India Song, ça relevait aussi de ça.
Oui, je me rappelle, vous m'aviez dit que vous vouliez aller avec la crise, au bout de la crise.
Oui.
Et vous venez de dire tomber. Et moi, au fond, par discours intérieur, c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire plonger, aller au fond de... je sais pas quoi, d'ailleurs, mais... Mais en fait, tomber dans le silence, on dit ça.
Mais oui, dans une sorte d'épaisseur.
Et ce lieu où vous écrivez Marguerite Duras, qui est opaque, silencieux, mais c'est aussi un lieu où vous entendez et où vous voyez.
C'est ça, oui. C'est ça, c'est un endroit où je suis admise, si vous voulez, à entendre, à noter.
il y a un passage alors qui est du texte, donc il y a un passage qui est d'un lieu, qui est dans le silence et dans l'opacité, mais qui existe tout à fait, puisque vous le voyez, vous l'entendez, vous le notez, et
il existe
dans chaque mot. C'est très extraordinaire comme chaque mot est vraiment vécu, entendu.
Mais ça, c'est la précision du concret, pas plus.
Oui, par le dépouillement de l'écriture. Il suffit de très peu de mots et de quelques phrases pour que tout soit dit de ce territoire, de cet endroit du silence, en fait.
Mais c'est un endroit où les choses sont très raréfiées.
Oui.
J'entre dans un endroit, dans un périmètre très circonscrit. Je me demande comment y ai-je des lecteurs avec cette littérature. Enfin, il y a des gens qui me repoussent très très violemment, qui ne me supportent pas du tout.
Il y a un côté piège un peu dans ce périmètre que vous dites et qui a toutes sortes de transparences. Enfin, et justement celle de la mémoire est une mémoire où l'on peut vraiment s'engouffrer. Enfin, c'est vraiment un texte redoutable, peut-être.
Redoutable pour moi aussi, d'ailleurs.
Oui. Oui. C'est pour ça.
Peut-être que j'en sortirai un jour. Mais peut-être que je ne veux pas en sortir non plus, voyez. C'est mon lieu.
C'est votre lieu.
Oui.
Et écrire, c'est un lieu.
Avant tout, je crois.
Oui, je trouve aussi. Le lieu un peu où on règne, d'ailleurs, non? Vous avez dit l'enfer tout à l'heure,
oui,
d'écrire.
Oui.
Mais c'est aussi l'endroit, c'est solitaire aussi. Mais c'est aussi, on règne, non?
Mais chacun l'a, cet endroit-là.
Oui.
Les gens qui n'écrivent pas long.
Mais ils n'aiment pas y aller.
Mais en général, il est en relation directe avec la vie vécue.
Et pour l'écrivain?
Non. Non, c'est pas en relation directe. C'est en relation, bien sûr, mais pas immédiate. Je veux dire que pour descendre dans cet endroit-là, il faut hésiter, on hésite parce que c'est quand même très loin.
Oui, vous avez dit tomber, vous avez dit descendre, ce qui correspond à l'idée d'intériorité. Mais est-ce que c'est une distance que prend l'écrivain? On pourrait dire à la fois qu'il y tombe et qu'il ne s'épargne pas, comme d'autres font, en n'y allant jamais. Et puis aussi, vous parliez de vie privée, c'est aussi peut-être une distance qu'il peut prendre. C'est quand même un lieu peut-être, je ne dirais pas protégé, mais c'est ailleurs.
Étanche.
Il faut que ça le demeure.
Parce qu'on peut penser à une vie meilleure qu'on pourrait avoir.
Oui.
Ça peut être un lieu, c'est un lieu d'écriture, non écrit, si vous voulez, occulté. À des amours qu'on n'aurait pas. Enfin, je pense que tout le monde est comme ça.
Mm-hmm.
Surtout les femmes. Chaque femme a son lieu, encore plus que les hommes. Enfin, du non-vécu. Et comment?
Oui.
Mais quand même, il y a des communications avec la vie vécue. L'accès à ça est plus, quand même plus simple, moins douloureux. Mais c'est la même chose, c'est de même nature, si vous voulez.
Est-ce que l'écrivain ne vit pas ce non-vécu, justement, ne l'active pas?
Il ne le vit pas.
Il ne le vit pas. Mais il le fait être, non?
Voilà.
Oui. Alors que vous parliez des gens dans leur vie privée, en particulier des femmes, et c'est très vrai.
Oui.
Mais elles, beaucoup de femmes attendent qu'on vienne les chercher et qu'on leur fasse vivre.
Oui, mais elles le vivent quand même. C'est une vie. C'est du non-vécu au grand jour, si vous voulez.
Oui.
Mais c'est quand même du non-vécu qui est quotidien.
Oui.
Qui est toujours là. comme une ombre, que l'ombre comme leur ombre même.
Mais ce n'est pas le fantasme.
Voilà, c'est peut-être ça la différence, oui. Il n'y a pas cette rupture de ton aussi grande, aussi étrangère.
Oui, étrangère.
Oui,
oui, c'est ça.
Vous voulez, Anne-Marie Sater et Lolle Weilstein, je n'ai rien à voir avec elles. Rien. Ce sont des personnes qui ont leur vie, qui n'améliorent en rien la mienne, qui ne me font jamais rêver. Vous voyez?
Oui, je vois.
Je ne rêve jamais à elles. Je tombe dans l'endroit où elles sont et je commence à écrire. Cet endroit est derrière moi, quelque part, mais il ne m'aide jamais à vivre. C'est mon enfer à moi. Si vous voulez, il est compensatoire, l'endroit des femmes, le lieu des femmes, le lieu quotidien du rêve des femmes. Ça, au moins, il ne compense rien, ce lieu. Et le fait d'écrire compense, peut-être. Mais ce lieu qu'on transporte, ce lieu noir, enfin, n'aide rien.
Mais le fait d'écrire, est-ce qu'il supprime le temps, disons?
Dans le temps de l'écriture même?
Oui.
Oui. Ça disparaît.
Donc il crée un temps supprimé par ailleurs. Il supprime le temps de la personne, de l'écrivain, et il fait arriver le temps du texte.
Oui. Oui. Ça, oui.
Et ce temps qui correspond un peu à l'idée de la mort dont vous parliez plus tôt. Peut-être.
C'est ailleurs.
Oui.
C'est des mots terribles. Je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il faut être tellement prudent à cet endroit du langage.
Oui.
Mais peut-être que je ne suis pas un écrivain.
Pourquoi dites-vous ça?
Parce que c'est trop traumatique, c'est trop terrible ce que je fais quand je fais l'écrivain.
Quand vous faites l'écrivain?
Oui.
Mais ce que je me demande, c'est le passage, justement, alors, de la page à la scène. Qu'est-ce que devient
le discours? Là, à la scène ou au cinéma, je fais un travail d'écrivain.
Voilà.
Comprenez?
Oui, justement.
Là, je rends compte, je choisis des images pour que le spectateur voie mieux.
Oui.
Etc.
Oui.
Qu'il approche de telle et telle façon. J'aménage, au cinéma.
Oui.
Mais dans l'écriture, non.
Pourquoi
est-ce le premier mouvement brutal dans l'écriture, il est complètement... Oh, il n'est pas du tout distancié, enfin, il est abrupt, il est... Je ne peux pas encore trouver un autre mot que la crise, mais il est... Comme si une crise s'abattait sur moi et je me débats comme je peux. Je quitte très vite pour tout noter. Puis alors après, quand je recopie, c'est déjà plus rassurant, c'est déjà... Ça enlève un peu du travail, mais au départ, non. C'est une sorte de subissement. C'est pour ça que je ne peux pas écrire, j'écris de moins en moins.
Écrire une pièce de théâtre et l'avoir jouée, est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est prendre sa distance avec le discours?
Oui. La chose étant donnée une fois pour toutes, on peut travailler avec, si vous voulez.
Oui.
J'avais peur de ce que j'écrivais, comme si les... Oui, comme si ça allait s'écrouler autour de moi. Je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va. Ça serait... peut-être vous ne pourriez pas le croire.
Si, je crois que je le croirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas la distance qui...
Il n'y a pas de distance.
C'est ça. Il n'y a plus de différence. plus d'intervalle et plus de... Le temps est supprimé, une sorte d'espace.
Oui, c'est ça. Les mots deviennent, à ce moment-là, sont dangereux. Oui. Comme des... Vraiment chargés de... Comme presque physiquement, vous voyez. De poison, de poudre. Ils empoisonnent, oui. Et puis ce sentiment que j'ai quelquefois que je ne dois pas le faire. C'est la première fois que je le dis, ça, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'on parle beaucoup de ça.
Oui.
D'où ça vient. Que c'est pas bien.
Mais pourtant...
Par exemple, Anne-Marie Stretter, c'était pas bien de la tuer.
Comme vous l'avez dit plus tôt, on n'avait pas l'impression que vous la tuiez, mais que vous saviez qu'elle était morte.
Ça vous gêne aussi, peut-être.
Peut-être.
Mais c'est tuer qu'elle vit.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Oui.
Parce qu'elle est au passé, elle a cette grâce.
Mais on a l'impression que ça ne peut pas ne pas être bien parce que vous ne mentez pas. Dans tout ce que vous venez de dire, d'ailleurs, et puis ça a toujours été mon impression à la lecture, c'est que vous ne mentez pas, c'est ça le danger d'ailleurs. Justement, il n'y a plus de mensonge, il n'y a pas de mensonge.
Oui, mais cette vérité, c'est une violence que je me fais.
Oui.
Toujours, dans quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui dit la vérité exerce une violence.
Certainement.
Quelqu'un qui dit toujours la vérité est invivable.
Oui, tant mieux, il ne faut pas être vivable dans cette vie-là.
Enfin, c'est cette même violence que j'exerce, peut-être sur moi. Enfin.
Oui. Alors, c'est pas bien parce que c'est dangereux et puis parce que ça fait mal, et ça vous fait mal à vous d'abord, mais enfin, je vois pas pourquoi ça n'est pas bien, c'est, il faut que ce soit, non? Puisque vous acceptez que ce soit,
et puisque c'est accompagné de cette culpabilité.
Ah oui, ça il faudrait.
Je me dis après coup que peut-être je cherche à m'en débarrasser de cette femme, à la liquider, en la tuant. C'est pas vrai, au fond.
Non, je crois que c'est quand vous dites que ça n'est pas bien que vous essayez de vous en débarrasser.
Peut-être, oui. C'est vous qui avez raison. Oui.
Parce qu'en fait, pour vous, mentir, je ne sais pas pourquoi, je reviens sur ce terme de mensonge, mais mentir, ce serait vous taire.
Mentir à qui ?
Mentir, c'est ne pas dire, je pense.
Taire, alors.
Oh, mentir à qui, je ne sais
pas. À moi ?
Pour dire mentir à qui, il faudrait savoir à qui on parle. Dire le mensonge. Prendre cette distance que vous dites qui n'existe pas.
C'est ça, je crois que vous y êtes, là. La distance, alors, ça serait...
La distance, ce serait le mensonge.
Oui. Alors là, je reconnais quelque chose de complètement juste dans ce que vous venez de dire. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. C'est ça. Je ne peux plus du tout supporter cette distance.
Oui.
Parce que ça me semble un accommodement, une tricherie.
C'est ça.
Un mensonge, justement.
Oui. Et c'est là qu'est le danger terrible. Le danger est la chose que personne ne veut connaître et que les gens refusent et que vous ne refusez pas. Votre refus, c'est de ne pas refuser ça.
Oui, alors là, oui.
Et alors, c'est terrifiant et c'est ce qui fait que vous disiez plutôt qu'il n'y avait pas de distance entre ce que vous écrivez et vous au moment où vous l'écrivez, que c'était terrifiant. Et on le comprend très bien, parce que...
Mais le poème s'écrit comme ça.
Oui. Oui, l'immédiateté.
La musique.
Oui.
J'imagine.
Mais le dire avec un discours qui n'est pas fait pour le dire, qui est fait au contraire pour le masquer, pour le déguiser, qui est fabriqué en fait pour qu'on ne dise jamais ces choses-là, pour qu'on s'approche jamais, pour qu'on... Le discours, en fait, est fabriqué pour maintenir une distance.
La sauvegarde. Alors, oui.
La sauvegarde,
oui, c'est
de
vrai.
Beaucoup de choses et d'une
c'est
société,
vrai.
Entre autres. Mais alors, quand vous vous servez de ce même discours pour détruire ce qu'il est supposé instaurer,
il y a danger.
Il y a danger. Et il n'y a plus mensonge. C'est-à-dire qu'il y a, il n'y a plus discours. Il y a intérieur.
C'est ça. Il n'y a plus discours.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 juin 1974. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Where is thy steed?